la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonjour à tous, à toutes et à tous, chers auditeurs. C'est Hugo et je dois dire que vous m'avez manqué. Mais c'était pour moi un temps de pause nécessaire, une volonté de ralentir. L'un de mes objectifs de cette année est justement de réussir à poser ma voix et donc de ralentir mon débit de parole, mais aussi de prendre le temps de perdre du temps. Tout ça pour vous dire que c'est ok de ne pas tout faire, de ne parfois rien faire. Vous ne verrez jamais toutes les séries, jamais tous les films, vous ne jouerez jamais à tous les jeux vidéo. Et l'accepter, c'est déjà un peu ralentir. Et c'est déjà aussi un peu anticapitaliste. Puisque commencer à ralentir, c'est déjà s'opposer à la logique du profit, toujours plus, toujours plus rapidement. Et en ce moment, il y a justement une série qui fait un peu parler, et c'est une série qui prend son temps, Pluribus, du créateur de Breaking Bad. Elle ne va pas vite, mais n'est pas inintéressante. Au contraire, son intérêt est dans sa lenteur, dans la tension qui s'installe et dans les questions que la série nous laisse nous poser. Alors n'hésitez pas, regardez Pluribus, mais prenez votre temps. Écoutez la matinale d'abord. Et aujourd'hui, dans cette matinale, on reçoit Elena Laquatra du Lab Femmes de Cinéma qui vient nous parler justement de la place des femmes dans l'audiovisuel. Elle sera interviewée par Hugo, pas moi, mais l'autre. Puis Thierry nous fera un tour de l'actualité. Puis pour la chronique Actu, ce sera Violette qui viendra nous éclairer sur la situation en Iran. Pour le Zoom, ce sera la réalisatrice et scénariste Mélodie Sissou qui sera interviewée par Eve. Et Eve nous offrira de surcroît et à la suite sa première chronique sur ses non-résolutions de l'année 2026.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Donc aujourd'hui, on reçoit Elena Laquatra, coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma. Bonjour Elena.
Bonjour.
Alors tu viens nous parler donc de la place des femmes dans l'audiovisuel. Et Hugo, je te laisse poser ta première question.
Oui, bonjour Elena. Vous êtes coordinatrice et rédactrice de l'étude sur les principaux chiffres clés de la place des femmes dans le cinéma et l'audiovisuel. Tout d'abord, qu'est-ce que Lab Femmes de Cinéma ?
Eh bien, écoutez, le Lab Femmes de Cinéma, c'est un think tank. Donc, un think tank, c'est plutôt un espace de réflexion. On existe depuis 2017. On a été créé suite à un focus spécial aux Arc Film Festival, avec qui on est très proche, qui était un focus sur la place des réalisatrices en Europe. Donc il y a eu différents événements pendant cette édition du festival. Et à la fin du festival, très bien, on a parlé de la place des femmes dans le cinéma. On ne peut pas s'arrêter là. Donc il y a eu la création de ce think tank et qui veut vraiment, comme je disais, être un espace de réflexion pour penser la place des femmes dans le cinéma, mais aussi mettre en place des actions concrètes. Donc nous, on s'articule autour de trois piliers. Donc le premier, c'est créer ce qu'on appelle des rôles modèles au féminin. Donc mettre en valeur des femmes de cinéma qui vont permettre aux futures générations de s'identifier, de se projeter, de se dire « Ah, mais moi aussi, je pourrais faire ce genre de métier ». Pour ça, on a un podcast que je vous invite à écouter qui s'appelle « Femmes de cinéma ». Et on fait des masterclass. Ensuite, dire qu'on est un espace de réflexion, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des actions concrètes. On fait aussi des ateliers en intelligence collective pour faire émerger des idées et ça peut mener justement à la mise en place d'actions. Et le dernier pilier, on va y venir je crois, c'est la rédaction d'une étude. Initialement, c'était sur la place des réalisatrices en Europe et maintenant on a élargi, c'est les mesures en faveur de la parité dans le cinéma européen.
Et oui, plongeons-nous directement dans le rapport, dans l'étude 2025. On découvre notamment qu'au début, à la sortie des principales écoles de cinéma, en moyenne, 50% des diplômés sont des femmes. Alors, que se passe-t-il après ?
Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre. En fait, il y a des freins structurels qui empêchent les femmes d'investir le milieu du cinéma à la sortie des écoles. Je voudrais appuyer sur le fait que, notamment, il y a des réseaux de cooptation masculins qui sont pas... Il n'y a pas d'équivalent féminin.
Comme lequel ?
En fait, c'est que les hommes se connaissent entre eux et ils vont recommander des hommes à d'autres hommes. Et en fait, finalement, on va assez peu recommander des femmes dans les différents métiers. C'est vraiment un... Tous ces métiers-là, c'est des métiers de réseau.
Et du réseau masculin, donc.
Voilà, principalement pour le moment. Je pense aussi qu'il faut garder en tête que le secteur du cinéma, c'est pas le seul, mais on est au courant sur ce sujet-là, c'est un secteur où il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles. Et mine de rien, quand vous travaillez dans un secteur où vous avez des chances d'être agressé ou vous avez été agressé, vous n'avez peut-être pas envie de poursuivre dans cette voie-là. Également, si vous mettez en place, par exemple, vous portez plainte ou quoi que ce soit, vous dénoncez les violences que vous subissez, ben, généralement, on ne vous rappelle pas après. Donc, il y a notamment ce genre de frein.
L'étude 2025, elle porte sur une trentaine de pays. Alors, comment se situe la France par rapport aux autres pays dans ce rapport ?
Ça va, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant en ayant autant de pays, au total, on contacte 37 pays. Et cette année, on a eu 36 réponses. Ça permet d'avoir vraiment une très grande vision.
Qui est-ce qui n'a pas répondu ?
La Bosnie-Herzégovine.
D'accord.
Si vous avez leur numéro, ça m'intéresse. Mais la France, elle est légèrement au-dessus de la moyenne européenne. La moyenne européenne, elle est autour des 25%. Pour les films de réalisatrices sur la période 2020-2024. Et en France, on est à 27%. Donc on est un petit peu mieux. Et honnêtement, on est un pays qui met en place beaucoup de mesures en faveur de la parité. Donc on peut dire bravo la France. Néanmoins, c'est quand même très loin de la parité, 27%. Donc je suis un petit peu mitigée.
C'est très très loin. Et l'étude, c'est loin. Est-ce que l'étude, elle porte seulement sur les pays européens ?
Oui, à ce jour, on ne fait que les pays européens, c'est déjà pas mal en termes de travail.
C'est sûr que c'est déjà pas mal. Les chiffres de l'OEA, donc, ils montrent en moyenne européenne une progression réelle de la part des films de réalisatrices, mais elle reste très lente. On est passé de 19,2% en 2015 à 24,6% en 2024. Et c'est loin d'être linéaire, ça baisse, ça remonte. À ce rythme et sans retour en arrière, la parité ne pourrait donc être atteinte qu'en 2066. Alors comment est-ce qu'on accélère ?
Comment est-ce qu'on accélère ? Alors, déjà, je pense que ce qui est intéressant, surtout au regard de notre étude, c'est qu'il serait peut-être temps de faire un premier bilan des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Parce qu'en fait, là, notre étude, cette année, elle va avoir 10 ans. L'édition 2026, c'est l'édition des 10 ans. Et on constate qu'il y a déjà des pays qui commencent à dire « bon, ça a très bien marché, ça n'a pas du tout marché », et qui font un peu un état des lieux. Donc, pour moi, la première chose, c'est faire un peu le tri pour renforcer en fait des mesures qui fonctionnent bien. Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut continuer d'investir dans différents programmes qui vont permettre de valoriser les femmes dans le cinéma. Et j'avais un dernier truc en tête et je l'ai oublié, évidemment. Ah oui, il y a des choses... on commence à s'interroger pour, au lieu d'avoir des mesures incitatives, à commencer à avoir des mesures, je trouve pas trop de mots à part punitives, pour que par exemple des équipes de films qui sont pas paritaires, au lieu d'obtenir un bonus financier, elles aient un malus financier. Donc il y a des pistes à explorer de ce côté-là.
Donc plus punir qu'inciter à faire, c'est ça ?
Ben oui, parce que les mesures incitatives, elles fonctionnent, on va pas se mentir, mais elles fonctionnent pas assez.
Et je crois qu'il y a un pays qui est plus avancé que nous là-dessus, c'est l'Espagne qui est en haut du podium et qui pour le coup a vraiment passé des mesures et qui est plus avancé que nous.
Oui, l'Espagne, je ne fais que les admirer. On peut les admirer, il n'y a pas que sur les questions de parité. Voilà. L'Espagne, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le seul pays européen à ce jour qui a de vrais quotas. Donc je sais que c'est un mot qui fait peur à plein de gens, mais il ne faut pas. C'est-à-dire que nous, on est en contact avec les équivalents du CNC dans tous les pays. Et donc, l'équivalent du CNC espagnol dédie une partie de son budget à des programmes qui sont des programmes de soutien des films de réalisatrices. Donc c'est prévu, c'est pas juste comme d'autres pays où on va avoir plutôt des quotas hybrides ou modérés, où on va dire oui, à qualité égale, on va peut-être aider. Enfin,
oui, le mot quota hybride, déjà, il met le flou.
Oui, voilà. Donc l'Espagne, ils sont jusqu'au boutiste dans le très bon sens.
Et quand est-ce que la France s'y met ?
Ah bah ça, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide, c'est le CNC. Mais le CNC, attention, parce que la France met quand même beaucoup de choses en place, faudrait pas non plus dire qu'on fait rien.
Bien évidemment, en mars 2025, les acteurs et cinéastes français Jean Dujardin, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche et Pio Marmaille ont témoigné à huis clos devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises dans le cinéma. Ils confessent avoir pu être lourds, article tiré de Libération. Qu'est-ce qui résulte de cette commission d'enquête et est-ce que ça vous a rendu heureux cette commission ou est-ce que c'est encore pas assez ?
Alors, je vais être très honnête, je ne peux pas parler en tant que professionnelle puisque je n'étais pas encore en poste à ce moment-là. D'un point de vue personnel, je trouve que c'est quand même une certaine avancée. Moi, je trouve que le milieu du cinéma, c'est assez surprenant et très paradoxal puisque c'est un milieu qui met énormément de choses en place qui est capable de se regarder et de se dire bon, il y a ça qui va pas, on va faire ça, ça, ça. Et sur la question des VHSS, il y a quand même eu des avancées et moi je voudrais saluer ce genre de choses. Et en même temps, c'est un milieu où il y a beaucoup d'immobilisme, donc j'ai une certaine frustration. Donc désolée, je fais un peu des détours pour cette question puisque j'ai pas de réponse arrêtée.
Quand on dit VHSS, ça veut dire violence et harcèlement sexiste et sexuel.
Oui, pardon, voilà, désolée.
Non, mais c'est pour les auditeurs.
Oui. Donc moi, je trouve que cette commission d'enquête, c'est un premier pas très très encourageant. J'attends de voir la suite.
Très bien. Il y a également des formations de sensibilisation qui sont mises en place. En quoi elles consistent, ces formations ?
Alors, c'est par le CNC, si je ne me trompe pas, ces formations. Et ça a été progressivement mis en place, puisque au début, il me semblait que c'était que les personnes à la production et à la réalisation qui étaient obligées en fait, de les faire. Obligées dans le sens où, pour obtenir certaines aides financières, il fallait que des membres dirigeants fassent cette formation. Et c'est de plus en plus étendu, puisque maintenant, c'est sur plusieurs membres des équipes de tournage. Toutes les personnes qui sont chefs de poste. En 2026, je ne sais pas si c'est encore fait, normalement, il fallait. L'objectif, c'était aussi sur tout type de tournage, pas que cinéma, donc des tournages de télévision, de séries, ce genre de choses. Et également pour les dirigeants de festivals, puisque c'est également. Les festivals sont membres de l'écosystème cinéma, on va dire ça. Et en termes de contenu, alors. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais c'est des formations de sensibilisation. C'est aussi un rappel en fait, à la loi, d'une certaine manière, parce que c'est pas juste... comment dire ça ? J'essaie de trouver les bons mots. En fait, il y a une responsabilité légale des employeurs de garantir la sécurité de des employés.
Donc du réalisateur et de toute
Plutôt
l'équipe.
Des équipes de production. Enfin, souvent, les réalisateurs, réalisatrices, à vérifier, mais je ne crois pas que ce soit eux qui soient en première ligne. Parce que l'employeur, souvent, enfin la personne qui emploie les équipes techniques et les actrices, c'est la production. Donc, en consultant souvent les réalisateurs et réalisatrices, évidemment. Mais je veux dire, ces formations, elles permettent de rappeler le cadre de la loi, c'est que vous devez protéger vos employés, et une manière aussi de les protéger, c'est qu'ils ne se fassent pas agresser, tout simplement.
Ce qui est une base.
Ce qui est une base, mais en fait, je trouve qu'on l'oublie. Et puis même moi, avant de prendre mon poste, même si j'ai toujours été sensible à ces questions, c'était pas forcément clair en fait que légalement on était protégé.
Par la tête au-dessus, oui.
En fait, c'est du code du travail. C'est dans le code du travail, il y a quand même des choses qui protègent les employés, et se faire agresser sexuellement sur son lieu de travail, ça rentre en fait dans les dispositions du code du travail. Donc on est censé être protégé, et les personnes dirigeantes, notamment côté production, ne peuvent pas ignorer ça et juste se dire oui, bon, c'est de l'ordre de l'intime, ça ne nous regarde pas. Non, c'est légal.
Si une femme se fait agresser sur un tournage, est-ce qu'il y a un référent qui est extérieur à la production et à la réelle ?
Alors, normalement, oui. Il y a la volonté... La volonté, non, c'est imposé d'avoir des référents. Je réfléchis. Donc oui, il y a des personnes référentes qui normalement sont censées être pas embauchées par la production, puisque sinon ça crée des conflits d'intérêts, puisque si l'employé de la production, enfin la personne référente est employée par la production, bon, je suis pas sûre qu'on va être à l'aise pour se confier. Après, il y a aussi des cellules d'écoute en dehors de la production. Par exemple, il y a la cellule d'écoute audience, qui est très utile, qui est gratuite et qui offre un soutien psychologique et, il me semble, juridique, mais à revérifier.
Merci Elena Laquatra pour ses réponses. Vous restez avec nous, mais tout de suite, on prend un peu de douceur, un peu de belle âme, la chanson de Bianca Costa.
J'ai déposé mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là. Ton calme et ta joie valent tous les bijoux, le grain de ta voix. Un piano qui joue la plus belle des ritournelles que je connaisse.
Que je connaisse.
Le temps d'un repas, tes mains qui bougent, le chant de tes pas. L'éternel bougie quand les dernières flammes des ciels bleus disparaissent. J'ai mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là.
On a tant aimé, on a tant saigné. On a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer. On a tant aimé, on a tant saigné. On a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer. On a tant pleuré pour des histoires. Ton rira dans 20 ans. Après la pluie vient le beau temps. Ciao tristesse. S'il faut partir je paye. S'il faut changer j'essaye. Les larmes sur tes joues m'effraient. Alors j'essaye, oui j'essaye. J'ai pas vu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux de ton joli visage, de ton joli visage.
J'ai pas vu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux de ton joli visage, de ton joli visage.
J'ai perdu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux et que t'étais parti de mon beau paysage.
J'ai perdu le sourire quand j'ai fait l'état des lieux et que t'étais parti de mon beau paysage.
Si tu ris avec nous, le soleil nous suivra partout.
De manhã quero carinho dela. Tô de manhã, tô carente, tô querendo ela. Todo dia de manhã quero carinho dela.
E c'était Belle âme de Bianca Costa. Et sachez que face à cette jolie bossa nova, les sourires sont toujours ici présents dans la matinale, si on fait l'état des lieux. Mais aujourd'hui, on a toujours Elena Laquatra avec nous. Et on parlait précédemment de, en cas d'agression sur un plateau de tournage, s'il y avait une personne référente. Et ça tombe bien, demain, on reçoit une coordinatrice d'intimité. Quel rôle ça peut jouer, une coordinatrice d'intimité, en cas d'agression? Est-ce que tu peux continuer ta réponse, Elena?
Oui, j'allais y venir. C'est très intéressant de parler du rôle de coordinatrice d'intimité qui n'est pas le même que le rôle de référent. En fait, la coordinatrice d'intimité, elle peut intervenir en amont et surtout, elle est présente sur le plateau de tournage. Si vous ne voyez pas ce que c'est, dites-vous que, par exemple, si vous regardez un film et qu'il y a de la grosse baston, il y a quelqu'un qui chorégraphie la baston. Et ben, en fait, quand il y a des scènes d'intimité, notamment des scènes de rapport sexuel, et bien, il y a quelqu'un qui chorégraphie en fait, ces scènes-là. Ça sert vraiment à ça, puisque pendant très longtemps, dans les scénarios, en fait, quand on disait que deux personnages allaient avoir une scène d'intimité, c'était marqué « ils l'embrassent fougueusement et ils ont des rapports sexuels ». fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Et ça a laissé place à beaucoup en fait de dérives. Donc tout l'intérêt d'une coordinatrice d'intimité, c'est de dire on va faire les choses comme ça, on va se placer comme ça. Et c'est aussi une personne, même si je dis qu'elle n'est pas la personne référente en cas de violence, c'est quand même une personne qui va pouvoir accueillir la parole des acteurs et actrices qui sont en train de jouer la scène et qui vont dire bah là par exemple je ne sens pas à l'aise sur cette scène, sur tel geste. Et la coordinatrice est justement là pour réajuster, pour que tout le monde se sente à l'aise.
Et juste avant la pause, on parlait de audience, ce qui était donc le référent. Si jamais il arrive un harcèlement sur le tournage, c'est ce référent-là qu'on peut aller voir et qui dépend d'audience, si j'ai bien compris ?
Non, le référent ne dépend pas forcément d'audience, mais je disais que une des actions qui est possible pour une victime de violence sexiste et sexuelle sur un plateau, c'est d'appeler la cellule d'écoute audience. Donc audience, en fait, c'est de base un organisme de mutuelle pour les personnes qui travaillent dans les secteurs du divertissement, de la culture, et en fait qui a mis en place cette cellule d'écoute qui permet d'accueillir la parole et de faire de l'accompagnement, notamment psychologique.
Et ça fait depuis combien de temps que Audience a été mis en place ?
Alors la cellule d'écoute, je ne sais pas depuis combien de temps honnêtement. Donc Audience, ça existe depuis très longtemps, mais ce n'était pas leur cœur de métier. La cellule d'écoute, je vous avoue que je n'ai pas la date, désolée.
Il y a une initiative qui a été lancée en 2022 qui s'appelle New Down par plusieurs centres de cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors c'est une initiative normalement qui réunit plusieurs centres et c'est pour favoriser la diversité dans le cinéma. Après, moi, je ne me concentre pas trop dessus parce que malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ont quitté cette initiative ces dernières années. Au début, je pense qu'ils étaient peut-être bien une dizaine, un petit peu moins. Et maintenant, ils doivent être autour de 6. Donc, je trouve que ce n'est pas forcément l'initiative qui a le plus le vent en poupe, malheureusement.
D'accord. Il y a une obligation de parité, cependant, au sein des instituts, plus particulièrement dans la composition des commissions d'attribution de subventions, les postes de direction ou encore les jurys. Pourquoi est-ce qu'en 2025, on comptabilise seulement 9 pays qui ont mis en place des gouvernances paritaires et est-ce que la France est dedans ?
Alors, la France est dedans, totalement. Au CNC, il y a plusieurs commissions et il y a une exigence de parité. Mais encore une fois, la France est plutôt un bon élève. Après, pourquoi il y a aussi peu de pays qui mettent en place ce genre de mesures ? En fait, c'est valable pour toutes les mesures. Il y a des pays qui ne sont pas forcément dans la même dynamique. Il y a aussi des marchés qui sont différents, puisque le marché du cinéma français, c'est un gros marché.
C'est le plus gros européen ou pas du tout ?
Ah, je ne sais pas si c'est le plus gros européen, mais c'est un des plus gros, c'est sûr. Mais après, en fait, il y a tout simplement des pays dont les centres cinématographiques, ils n'ont pas les moyens. Il y a quoi ? Il y a 40 films qui sont produits par an. Donc, c'est très compliqué de mettre en place des mesures. Il y a plein de bonnes volontés, mais aussi, il faut garder en tête que tous les pays n'en sont pas au même stade, en fait. Ils ne sont pas au même stade de prise de conscience, puisque au-delà des centres cinématographiques, après, il faut faire bouger à l'échelle gouvernementale pour faire comprendre que c'est un enjeu important, que ça va apporter plus d'inclusivité et un équilibre pour toutes et tous. Donc, c'est juste que les pays n'en sont pas au même stade.
En ce moment, il y a beaucoup de débats sur le budget. Est-ce que vous, en tant qu'association, et sur justement le budget que ça coûte, ces mesures pour la place des femmes dans l'audiovisuel, est-ce que vous êtes inquiète de la pérennité de ces mesures ?
En fait, on est inquiète pour l'entièreté du secteur de la culture. Nous, on est très au fait qu'en ce moment, on est dans une période de ce qu'on appellerait de backlash, donc de retour en arrière. C'est quelque chose d'assez cyclique, en fait, dans toutes les luttes militantes. C'est qu'on a des acquis sociaux qui sont durement arrachés à force de militantisme. Et à un moment, il y a un repli en fait, de la société qui essaye de remettre en cause ses acquis. Donc nous, au Lab Femmes de Cinéma, on ne vit pas dans une utopie où oui, les choses progressent et ça va aller que vers du mieux. On est quand même très inquiète. Il y a la question des budgets qui touchent tout le secteur culturel. On a même fait un atelier avec le collectif 50-50, qui est une association aussi en faveur de la parité et d'autres associations du secteur pour pour parler de backlash, vraiment, pour se dire qu'est-ce qu'on doit anticiper, à quoi on doit être vigilante et comment on fait pour ne pas perdre nos acquis. Donc c'est quelque chose qui nous parle.
Mais comment on explique ce manque de financement, sachant que le cinéma est quand même financé par des gros groupes comme Canal et avec Bolloré derrière, donc il y a quand même beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'eux n'investissent pas directement dans ces mesures ?
Vous pensez que Bolloré, il a envie d'investir dans des mesures pour la parité ?
C'est pas dans leur intérêt de montrer justement qu'ils font pas de blanche ?
Je pense que Bolloré a montré qu'il avait pas envie de faire pas de blanche en ce moment. Enfin, désolé d'être un petit
Y a pas de soucis, c'était ma question. Est-ce que le financement du cinéma est un thème abordé par les politiques ? Où on parle de financement culturel et on parle pas forcément de ce qui se passe sur les plateaux de tournage ?
Ça c'est une bonne question. Ben, les politiques qui parlent toujours de financement culturel, ils en parlent toujours un peu à leur sauce. Je crois que c'est le RN qui récemment disait que les seuls films qui méritent d'être financés, c'est les films qui font des entrées en salle. Ce qui est un peu rude, parce que ça veut dire qu'on se prive de tout un pan du cinéma. Et un film ou une œuvre, en général, elle n'est pas intéressante uniquement parce qu'il y a des gens qui viennent la voir. Enfin, si... bon, ça c'est très personnel, mais si elle touche déjà une personne, moi je trouve que c'est une œuvre intéressante. Donc les politiques, oui, ils s'emparent totalement du sujet, pas forcément spécifiquement du cinéma, mais les politiques culturelles, ça les intéresse beaucoup. Et ça les intéresse soit pour orienter le type de financement, soit pour les retirer et récupérer de l'argent, quoi.
Si on traverse un peu l'océan et qu'on part aux États-Unis, rapidement, est-ce que Hollywood sous Donald Trump, ça rend compliqué la mise en place de mesures égalitaires ? Et on sait que le cinéma américain influence le monde. Est-ce qu'avec Donald Trump à sa tête, ça va un peu saper votre travail ?
Ben, je parlais du backlash là il n'y a pas longtemps, mais ce backlash, il vient aussi des États-Unis. Les États-Unis, même... Au-delà du cinéma, les États-Unis travaillent avec beaucoup d'entreprises françaises. Et à partir du moment où Donald Trump dit « je ne veux plus qu'il y ait de politique en faveur de l'inclusion dans telles entreprises », ben, en fait, rideau, quoi. Donc oui, il y a une influence très claire de la situation aux États-Unis. En fait, on est très dépendant de ça. Après, en termes de cinéma... Moi, je me pose plutôt la question sur comment on va exporter certains films français. Non pas qu'on en exporte des tonnes, à mon avis. Je ne suis pas sûre que les Américains soient toujours intéressés par nos histoires. Mais comment on va pouvoir exporter certains films ? Parce que imaginons que nous, on n'ait pas trop de problèmes. On est assez hermétique à ça. On continue de faire les films qu'on veut. Ben, ces films, ils ont aussi besoin d'avoir une vie en dehors de la France. Donc, est-ce qu'on peut continuer à les vendre dans un pays comme les États-Unis où il y a beaucoup de gens pour voir les films ?
L'arrivée des grandes plateformes comme Netflix, Amazon, est-ce que ça a normé justement, ça a créé plus de mesures, parce que je pense d'ici américain, c'est plus structuré, ou est-ce que c'est pareil ?
Est-ce qu'on peut reformuler la question ? Je ne sais pas si on a compris.
Quand il y a Netflix, Amazon à la production, par exemple, de séries, de films, est-ce que comme c'est des grandes multinationales, est-ce qu'il y a plus de mesures justement pour assurer la sécurité des femmes sur un plateau, ou est-ce que c'est exactement pareil qu'une production indépendante, qu'une production française ?
J'avoue que comme c'est des plateformes plutôt américaines, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Après, ce que je peux dire, c'est que les États-Unis, même si là, je viens de les critiquer sur certains points, typiquement, le métier de coordinatrice d'intimité, il vient des États-Unis. Ce n'est pas nous, les Français, qui l'avons inventé et on est grave en retard vis-à-vis d'eux. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent tout à fait correctement. Après, c'est plutôt en termes de représentation. Les grosses plateformes, elles n'ont d'intérêt que de... On a souvent parlé de cahier des charges pour Netflix. Netflix, il a intérêt à faire un cahier des charges avec des séries très inclusives si les gens regardent. Si les gens ne regardent pas, je pense qu'il retourne vite sa veste.
Merci.
C'est déjà la fin de cette interview, Elena. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver le labo ? Sur Instagram, est-ce qu'il y a un moyen de contacter et de suivre votre actualité ?
Oui, alors, très rapidement, je vais faire très vite. On a un site internet, labfemmedecinema.org. On a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On a une newsletter et comme j'ai encore un tout petit peu de temps, je vous annonce qu'on va lancer une campagne en faveur de la parité pour les Césars 2026. On fait ça depuis 2024, donc ça sort dans quelques jours. Soyez vigilants, surtout si vous votez.
Merci pour cette exclusivité Radio Campus Paris, Elena. Tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Hugo et bonsoir à tous.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir et bonne année, surtout. À retenir dans l'actualité de ce mercredi 14 janvier, le point sur la crise agricole. Les tracteurs entrés dans Paris hier matin et pris position autour de l'Assemblée nationale ont quitté très tôt ce mercredi matin la capitale. Hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis un projet de loi d'urgence qui devrait être présenté en mars. Il a également indiqué sur le réseau social X qu'un plan pour l'agriculture de 300 millions d'euros a été déposé hier par voie d'amendement. Le plan présenté par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a été complété par un volet fiscal. Le Premier ministre a insisté que ce dispositif ne pourra entrer en vigueur qu'avec l'adoption du budget 2026. Un mot d'économie. Le nombre de dossiers de surendettement est reparti à la hausse en 2025, bondissant de près de 10%, au point que la Banque de France a mis en place des effectifs supplémentaires pour leur traitement, a indiqué ce mercredi le gouverneur de la Banque centrale française, François Villeroy de Galo. À l'international, la situation en Iran reste préoccupante après la répression menée par le régime des Mollahs dans les rues de Téhéran pour tenter de mettre fin aux manifestations contre le pouvoir en place. Selon un dernier bilan d'ONG, plus de 2500 personnes auraient été tuées. De son côté, Donald Trump assure que les États-Unis agiront de manière très forte si les autorités iraniennes exécutent des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays. Téhéran accuse de son côté Washington de chercher un prétexte en vue d'une intervention militaire. En football, après son exploit contre le Paris Saint-Germain en 32e de finale de la Coupe de France, le Paris FC affrontera le FC Lorient en Bretagne en 16e de finale le mercredi 4 février. Enfin la météo, le temps prévu pour demain jeudi à Paris et en Ile-de-France s'annonce globalement gris et hivernal, avec des températures fraîches autour de 5 à 11 degrés. Aucun épisode pluvieux majeur n'est attendu, mais un ciel très nuageux dominera la journée. Fin de ce flash, 19h32, restez à l'écoute de Radio Campus Paris avec la suite de votre matinale avec Hugo. Très bonne soirée. Et à très bientôt.
Merci beaucoup Thierry. Tout de suite, la matinale fait une pause pour David Bowie Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Yeah. Some man waiting in the sky. C'était Starman de David Bowie dans la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite dans la matinale, c'est Violette qui vient nous éclairer sur l'actualité en Iran.
Bonsoir.
Bonsoir Violette.
Il y a 2 ans, Marjane Satrapi écrivait dans « Femmes, vie, liberté ». En 2009, c'était les classes moyennes éduquées qui se révoltaient. Aujourd'hui, c'est tout l'Iran, sans distinction économique ou ethnique. C'est les élites, le peuple, les familles, c'est l'intime qui devient politique. C'est avec d'autant plus de force que résonnent aujourd'hui les mots de l'artiste franco-iranienne. Comme vous le savez, depuis le 28 décembre 2025, l'Iran se soulève par une nouvelle vague de protestations. Quel est le bon ton à adopter pour une jeune femme qui, comme moi, n'est ni journaliste ni spécialiste? Garder espoir ou s'enflammer? Comment parler de cette révolution à l'heure du grand repli dans les mondes virtuels où nous autres, internautes de tous les âges, sommes inondés par l'information continue, par des chiffres, des noms, où il suffit de swiper pour refouler une étincelle au hors-champ? Moi, dont la parole n'a ni de valeur scientifique ni journalistique, je relègue l'information que des experts brillants et bien plus qualifiés dévoilent au monde entier depuis 15 jours. Cette manifestation contre le régime des mollahs est d'abord menée par les petits commerçants du bazar de Téhéran après la chute vertigineuse du rial, la monnaie nationale, avant de s'étendre à d'autres localités, de s'amplifier. Il s'agit là d'une répression sanglante à huis clos menée par la République islamique d'Iran et notamment l'ayatollah Khamenei. Je pourrais vous donner des chiffres qui ne cessent de grimper à valeur exponentielle, ceux des morts, des prisonniers, des chiffres jamais certains, des chiffres bien souvent en deçà, des chiffres toujours cachés. Depuis le jeudi 8 janvier, ce sont les plus grandes villes qui sont enflammées par des manifestations. Révolte ou révolution? Toujours est-il que ces soulèvements touchent toutes les strates, tous les âges. Delphine Minoui parle même d'une révolte des ventres, des périphéries marginalisées qui se soulèvent contre le centre, le pouvoir. Fesod veut dire corrompu, un mot utilisé en 1979 contre le Shah d'Iran qui résonne à nouveau aujourd'hui dans les rues en colère. Depuis le 9 janvier, la nature du discours des dirigeants iraniens est tout autre. Les manifestants sont désormais qualifiés d'agents terroristes agissant au profit des États-Unis d'Amérique. Et cela, au moment même où la coupure d'Internet risque de masquer les violations des droits humains. Mais n'oublions pas que chaque vague de contestation a laissé des traces très profondes en Iran, explique Farid Vahid. Elles changent indéniablement le pays. Elles sont de plus en plus rapprochées. Elles sont gages d'un espoir porté par la société civile, qu'il s'agisse du cinéma, des intellectuels, de la jeunesse iranienne, comme de toutes les strates de la société. Je terminerai cette chronique par les mots du grand Abbas Kiarostami. Avec quelle facilité nous avons accepté de ne pas voir une seule colombe dans la volée de corbeaux.
Merci Violette pour cette chronique lourde de sens. De notre petite station de radio, je me permets d'adresser un immense soutien à toutes ceux et surtout toutes celles qui luttent. Femmes, vie, liberté, ce sont leurs mots. Entendons-les.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
C'est maintenant l'heure du Zoom dans la matinale de Radio Campus Paris. On reçoit Mélodie Sissou. Bonjour Mélodie.
Bonjour.
Eve, je te laisse poser ta première question.
Merci Hugo. Merci. Bienvenue à Radio Campus, Mélodie. On va débuter par cette année 2026. Est-ce que tu peux nous présenter ton film ou ton projet Beau comme un camion? De quoi ça parle?
Oui, carrément, en fait, c'est un pilote qu'on tourne dans le but de créer une mini-série de docu-fiction. Et en fait, ça met en scène ma copine et moi dans un cadre très intime. Et en fait, l'idée, c'est de un peu remettre en question les normes de genre, les normes d'amour et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être un adulte, alors qu'être adulte, ça veut un peu plus rien dire aujourd'hui.
Bravo les lesbiennes.
Voilà.
Et justement, quelles sont tes inspirations cinématographiques quotidiennes?
Je pense que quotidienne, En vrai, je suis quelqu'un de hyper obsessionnel et j'aime bien regarder Friends en boucle, personnellement, en tout cas pour cette série-là, même si il y a beaucoup de choses très problématiques dans la série. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est de voir plein de réalisatrices, des réalisatrices queer et des personnes d'ailleurs qui nous donnent des récits qu'on n'avait pas l'habitude de voir, surtout en France. Et voilà, mais des choses... En fait, c'est très vaste.
D'accord, parce que tu nous parles quand même, dans ce que j'ai pu voir en tout cas, dans tes thèmes de prédilection, on sent qu'il y a un rapport important au corps, à l'organique et à la sexualité, et même voire à la douceur dans les derniers, dans l'extrait que tu as pu nous partager. Quels sont tes thèmes de prédilection en fait ? Qu'est-ce que tu cherches à montrer à travers tes œuvres ?
Je pense que... Quand on est comme ici derrière un micro ou derrière la caméra, on est des observateurs du monde ou des observatrices. Et je pense qu'au travers du regard et du regard qu'on pose les uns sur les autres, il y a plein de choses qu'on peut interpréter et plein de beauté qu'il y a juste dans regarder. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça que j'aime bien montrer. Je pense que c'est des points de vue et c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça va être à la hauteur d'une petite fille, comme pour dans Skateuse. Ça va être à la hauteur d'une jeune femme qui découvre qu'elle est bi ou lesbienne dans Je suis avec elle. Et là, c'est quelqu'un qui découvre potentiellement sa non-binarité. Donc je pense que c'est chaque découverte sur le monde que moi je peux faire. J'ai envie de transmettre ça et d'apporter ce point de vue-là parce que je ne le vois pas encore ou pas assez. Et donc, voilà.
D'accord, et justement je voulais te demander, suite à la première interview qu'on a pu entendre, toi quel est ton regard sur la place des réalisatrices aujourd'hui dans le cinéma français ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que les réalisatrices ont pu évoluer ? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ce que tu penses ?
Je pense qu'il y a un peu une illusion commercial qui fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de films avec des femmes, enfin des femmes réalisatrices qui sortent. Mais en fait, les chiffres, ils sont quand même hyper décevants. Là, on a un seul court-métrage, ou pas du tout de court-métrage, je crois, au César, qui a été réalisé par une femme. Je crois qu'il n'y a aucune sélection. Et il y a beaucoup de festivals où la parité, elle n'est pas atteinte. Et même dans les chiffres que France TV annonce, où on est censé avoir du 50-50, en fait, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de réalisatrices qui sont là, elles existent et pourtant on leur confie pas les budgets à la hauteur de leurs idées.
Et est-ce que tu trouves que c'est difficile justement d'avoir des budgets, d'obtenir des réponses ? Est-ce que tu penses que c'est une histoire de biais ou d'angle de point de vue ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a encore des hommes malheureusement qui sont...
Non, mais je pense qu'en fait, moi c'est pas tout à fait ma place, je pense Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Je pense que mon regard là-dessus, c'est juste qu'on vit des situations hyper compliquées en termes de culture. Et la culture, elle se ferme dans plein de trucs.
On parlait juste avant avec l'invitée précédente de backlash. Est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu le subis, toi, en tant que réalisatrice ?
Ça veut dire quoi, le backlash ?
C'est, en gros, il y a eu des avancées sociales et il y a un retour de bâton.
Après, je pense que je suis pas dans un point dans ma carrière où j'ai vécu la première lancée du bâton, donc je pense que là c'est un moment où il y a plein de choses qui sont possibles, mais en même temps les financements ils se ferment et que voilà.
Mais est-ce que tu ressens justement cette fermeture des budgets due au fait qu'il y a un gel des budgets par notre gouvernement, enfin voilà, est-ce que tu l'as ressenti sur 2025 par exemple ?
Après moi je pense que je suis dans un stade de ma carrière où j'en suis pas encore là, où en fait c'est encore beaucoup de choses en autoprod que je fais.
Ouais.
Et du coup ça va être beaucoup des choses grâce à la maison étudiante notamment, ou avec des fonds universitaires et tout, donc c'est pas encore des choses qui sont vraiment sélectives en fait. Et pour l'instant ce que je fais c'est beaucoup du bricolage, et du coup tant qu'on bricole dans son coin on a les moyens de faire... Tant qu'on a les rêves et tout, quoi.
D'accord. Et change totalement de question. Une question de Daron, c'est quoi cette passion pour le skateboard ?
En fait, je fais du skate depuis que j'ai 9 ans. Et en fait, c'est un milieu qui m'a vraiment aidé à grandir parce que j'étais la seule enfant. Enfin, j'étais une des seules personnes enfant, en tout cas, sur le skatepark. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué parce que c'est au travers du regard des autres que j'ai découvert que j'étais une petite fille, parce que on n'avait pas l'habitude de voir une petite fille sur un skateboard, et que c'est par ce prisme-là que j'ai un peu découvert que j'étais une fille en fait. Et je pense que c'est hyper obsédant pour moi parce que c'est un lieu hyper empreint de pop culture, Et c'est un milieu qui est hyper fantasmé, alors que finalement, bah, ça appartient totalement à notre société. Donc c'est un microcosme dans lequel les relations au genre, à l'homosexualité, à la virilité sont même décuplées.
Et est-ce que tu en parles justement, tu me parlais tout à l'heure de ton petit film Skateuse.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur le pitch, donner un peu le pitch de ce petit film ?
Bah ouais, en vrai, c'était hyper simple. En fait, c'était une commande dans le cadre des JO. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui va pour la première fois sur le skatepark. Elle recherche un peu des modèles. Et heureusement pour elle, on est dans une époque où il y a d'autres femmes qui skatent. Et il y a une femme plus âgée qui va l'aider et lui apprendre à dropper pour la première fois.
Et où est-ce qu'on peut les regarder, tes courts-métrages ?
Eh bah, bien, on peut m'envoyer un message, ou alors, je crois que oui, on peut m'envoyer un message. Parce que là, il n'y a rien pour l'instant qui est en ligne, mais Beau comme un camion va sortir le 30 janvier et il sera disponible sur la plateforme du Nikon jusqu'au 30 mars.
Okay. Oui, oui, bien sûr. Et, et juste, je voudrais revenir aussi, je vois que tu as pu faire une pub, entre guillemets, ou avoir un projet pour la pub Nike. Pour travailler en tout cas pour Nike. Est-ce que pareil, tu peux nous parler de ce projet ? Quelle a été la collaboration avec Nike ? Quelle est la thématique de cette pub ? Et qu'est-ce que tu as voulu démontrer en fait ?
Bah, je pense que je cherche un moyen, un peu comme tout le monde, de survivre. Donc ça m'intéresse forcément de faire de l'argent en faisant de la publicité. Là, malheureusement pour moi, c'était un peu du salariat déguisé, mais ça restait quand même intéressant parce que c'était une carte blanche du coup que Nike nous donnait en tant que créatrice, soit vidéaste, soit photographe. Et la thématique, c'était l'ambition au féminin. Et du coup, ils nous demandaient un peu d'interpréter ça. Et je pense que moi, mon interprétation de ça, c'était de me dire que seul, c'était bien, mais ensemble, on arrivait à aller plus loin. Et du coup, dans cette vidéo-là, c'était une envie de montrer des gens qui sont très différents, des profils de femmes qui font du street workout, qui font du skate ou de la danse plutôt urbaine. Et comment est-ce qu'on se réapproprie des espaces urbains qui ne sont pas adressés aux femmes de base et qui sont plutôt compliquées à vivre. Et comment est-ce qu'elles vont se tirer vers le haut ensemble ? Et comment est-ce qu'on peut faire équipe pour être ambitieuse ? Voilà. C'est très marketing Nike, c'est très américaine.
Justement,
vibe.
Est-ce que pour toi, la publicité, ça peut être un médium, c'est un médium comme un autre pour essayer de faire passer des messages, ou tu trouves quand même que c'est un peu capitaliste ?
Bah, c'est très capitaliste, c'est un peu bullshit aussi, mais je pense qu'il y a quand même des choses... Enfin, je pense que les pubs, ça reflète aussi des choses qu'on est en train de vivre, et en fonction de qui on va montrer pour vendre tel produit, ça va marcher. Mais après, en vrai, je m'y connais pas du tout, j'ai jamais fait de pub, et ça, je considère pas non plus que ce soit une pub. C'est plutôt une vidéo où j'ai encore mis du skate parce que j'adore mettre partout.
Et est-ce que c'est difficile de monter sa société de production tu parlais d'autoproduction, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
En vrai, j'ai pas de société de production, donc j'imagine que c'est compliqué.
Ouais.
mais en tout cas, à mon échelle, c'est cool parce qu'il y a plein de financements assez accessibles. Ou si on est étudiant, il y a plein d'aides. Enfin, on a quand même de la chance d'être en France et de pas être dans d'autres pays où il y a pas d'aide publique. Et donc, il y a plein de moyens de faire des choses où c'est du bricolage, mais où on peut avoir quand même des enveloppes. Pour faire un peu ce qu'on veut, ou vu qu'il n'y a pas de sélection encore et que ce n'est pas ni le CNC ni d'autres de choses où il y a de moins en moins d'argent. Voilà.
Dernière question, vas-y.
Non, est-ce que tu as. Quelle est ton actualité du coup pour 2026 ? Est-ce que tu auras d'autres projets
Ouais, carrément. Bah, du coup, il y a ce projet de pilote qui sort, qui est beau comme un camion. Et je suis aussi en train de finir un documentaire qui sortira fin 2026. Et ça parle de l'évolution du genre dans le skateboard au travers de deux personnages très différents, très binaires. Une petite fille, une adolescente maintenant qui commence à skater et un jeune homme que je suis du coup depuis 5 ans. Et en fait, au travers de leurs portraits entremêlés, il y a aussi ma voix off. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on a grandi tous ensemble dans cette scène skate parisienne.
Merci Mélodie pour toutes ces histoires de skateboard. Mais tu n'es pas un skater boy, ni une ballet girl. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram ? Quel est ton A ? Vite.
Ah oui, c'est Mélodie.Sissou. Mélodie Sissou, MELODIECI2SOU.
Merci Mélodie. C'est la fin de ce petit zoom. Mais La matinale part en pause. Mince alors. Eh oui, on vous quitte, mais on revient tout à l'heure. Allez, c'est Sega Bodega avec Kepco. C'était Kepco de Sega Bodega dans la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Si vous voulez reprocher à quelqu'un des temps morts, sachez qu'elle s'appelle Aude. Tout de suite dans la matinale, c'est la dernière chronique. C'est presque la fin malheureusement. Mais ce n'est pas la fin. On est toujours avec Eve pour sa chronique et ses fameuses non-révolutions de 2026.
Oui, tout à fait. Eh ben, d'abord, je suis très contente de faire une chronique libre. Ouais, je peux dire que je veux juste qu'on m'enlève, moi aussi, par hélico, ou en tout cas, si on m'enlève par mon micro. En ce moment, nouvelle année oblige, on me souhaite bien sûr tous les vœux de bonheur à la noix et on me demande mes résolutions. J'avoue qu'avec l'âge, plus je vieillis, moins j'ai de résolutions. Je dois avoir deux résolutions, mais je ne les ai pas encore trouvées. Donc, quand je vois l'état du monde actuel, c'est plus une incitation à l'alcool et aux drogues dures que de faire Dry January. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Leonardo DiCaprio s'est gentiment fait remettre à sa place aux Golden Globes parce que sa copine a eu 30 ans et qu'il ne l'a pas quittée alors qu'elle a plus de 25 ans. C'est QFD. La cause des trentenaires avance. Tenez bon, les trentenaires. Nicolas Sarkozy passe de super vacances aux Antilles. Les grèves SNCF vont se poursuivre et le consentement est toujours d'actualité. Les spams aussi. Illustration. Ce matin, je me suis retrouvée dans un groupe WhatsApp avec plein de numéros étrangers que je ne connaissais pas.
Ah, ça m'est arrivé aussi.
Ouais, à 6h du matin, j'aime ces rencontres impromptues, je ne sais pas toi. Mais bon sang de bonsoir, est-ce que vous savez ce que c'est le consentement? Parce que je veux bien faire du trafic de kétamine, hein, mais franchement, demandez-moi la permission. Eve, est-ce que ça te dit de faire du trafic et on transfère tout sur ton compte et tu nous donnes tes coordonnées bancaires? Très important. Mais bien sûr, moi aussi j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois vu que je ne pique toujours pas dans les caisses de l'État. Mais bordel, contactez-moi avant, envoyez-moi un petit message de bienvenue, prévenez quoi. La seule et très bonne nouvelle d'hier, c'est l'ouverture du procès quand même de Marine Le Pen, enfin. Je finis par être mauvaise langue comme elle parce que je trouve qu'ils ont mis un peu de temps à ouvrir son procès. À croire qu'ils l'ont fait exprès. Marine Le Pen a-t-elle détourné des fonds publics? Vous le saurez dans le prochain épisode de Jordan et la présidence. Et comme de par hasard, c'est comme si Emmanuel Macron, il n'attendait que ça pour pas être enlevé comme le président Maduro au Venezuela. Mais comme de par hasard, en France, on n'a pas de pétrole. Bravo la France. En France, on ne siphonne pas le pétrole. Par contre, on siphonne bien l'argent public et CNews siphonne bien le cerveau des Français. On n'a toujours pas d'idée de comment qu'on va s'en sortir avec la dissolution, non-dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je ne crois pas aux théories platistes, mais je finis par penser qu'on est gouverné par des reptiliens. Je pense aussi qu'en tant que bon reptilien, on devrait annexer la Suisse, le Luxembourg pour le chocolat et les paradis fiscaux. Et la Belgique, c'est qui fait les frites? Les Belges, c'est qui? C'est nous. Nous, on a une armée, la Belgique, pas vous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas votre sens de l'humour. Bon, la seule joie de s'imaginer Pascal Praud en PLS durant le procès de Marine Le Pen sur CNews me ravit. Peut-être que Trump pourrait faire un combo, deux politiques en V, un animateur CNews gratuit et un prix spécial pour les biquettes qui s'appelle Brigitte. Parfois, je me demande d'ailleurs comment fait Guillaume Meurice pour se désintoxiquer de CNews. A-t-il envie de voter FN? Et comment fait-on avec les Brigitte? Parce que pareil, on a eu deux Brigitte pour le prix d'une en décembre, sauf qu'il y en a une qui est vraiment morte. J'ai l'impression qu'on s'est un peu fait avoir quand même. Bref, est-ce que Brigitte Macron est un prénom féminin? Répondez la matinale. Répondez. Bref, on a encore des choses à voir en 2026.
On m'agresse.
Comme déconstruire les pensées patriarcales. Donc finalement, mes non-résolutions pour 2026, continuer les addictions avec modération. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, mais vous allez en avoir besoin. Et surtout, continuer à dire non à la connerie ambiante, oui à l'annexion de la Belgique, mais peut-être que je vais un peu trop loin là. Allez.
Merci Eve pour toutes ces non-résolutions. Si vous voulez savoir les miennes, il s'agit de toujours faire reposer mes problèmes sur Macron et le capitalisme, mais aussi finir cette matinale en beauté. Parce que oui, il est 20h, c'est donc le moment de vous quitter. Je sais, vous êtes triste, mais n'oubliez pas, quand vous faites l'état des lieux, gardez le sourire, sinon vous risquez d'en faire une chanson. Bon, c'est une très belle bossa nova, vous me direz. Eh oui. Mais je parle et le temps file. Donc il est temps de remercier tout le monde, à commencer par nos invités, Elana Laquatra et Mélodie Sissou, ainsi qu'à Hugo pour son interview, à Thierry pour le Flash Info, remercier Violette pour sa chronique sur l'actualité de Téhéran et de l'Iran, ainsi qu'à Eve pour l'interview du Zoom et pour sa première chronique, car oui, c'était la première et j'avoue, elle m'a fait rire. Je remercie aussi Joey à la réalisation et... Bon, quand même à Aude, même si elle a pris quelques erreurs, qu'elle a pris quelques chemins de traverse. Mais oui, merci à Aude pour aussi son rôle dans la coordination de l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et ne soyez pas tristes, car la matinale revient demain, même jour, même heure, mais pas avec les mêmes gens.